Il y a quelques années, des amis m'ont offert une bande dessinée que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Les Disciples. Voilà, c'est une bande dessinée dont le scénariste, l'auteur, est un certain Edmond Prochain, bien connu dans certains milieux cathos pour faire des vidéos assez drôles, il est vrai. Et il imagine dans cette bande dessinée différentes situations qui sont toutes liées à l'Évangile. Et pour la page que nous venons d'entendre, on voit André et Philippe qui viennent voir Jésus et qui lui disent, voilà, des Grecs veulent te voir. Et là, on voit Jésus et des phylactères très enrubannés, avec un discours qui semble voilà, très spirituel, très haut perché. Et puis, dernière case, on voit André et Philippe qui disent, bon, alors Jésus, très bien, mais qu'est-ce qu'on dit aux Grecs? Et c'est vrai que c'est un peu surprenant, par l'intermédiaire de leurs amis, des personnes demandent à Jésus, hein, nous voulons te voir, et voilà qu'il leur répond avec des histoires de grains de blé, d'élévation, de gloire. Voilà, c'est une réponse un petit peu étrange. Alors, essayons, eh bien, de comprendre de quoi il retourne dans l'évangile de ce jour. Imaginons la scène ensemble. Des Grecs veulent voir Jésus. Il s'agit probablement de sympathisants du judaïsme issus des nations païennes ou peut-être de juifs qui viennent de la diaspora grecque. Monter à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque, comme doit le faire tout juif, voilà que ces hommes et femmes entendent parler d'un homme qui en a ramené un autre à la vie. Souvenons-nous, quelques pages avant, il est question de Lazare sorti du tombeau. Oui, Lazare est sorti du tombeau et la foule ne parle plus que de cela dans toute la ville. On peut imaginer, en effet, le ramdam. Celui par qui le miracle est arrivé serait le Fils de Dieu. Il serait le Messie. Alors peut-être si nous étions à la place de ces hommes et de ces femmes ce matin, peut-être vous, les jeunes qui êtes en chemin vers le baptême, eh bien peut-être que vous aussi, nous aussi, nous aimerions voir Jésus. Le désir de ces quelques Grecs est-il motivé par une simple curiosité devant un phénomène peu commun? Ou bien s'agit-il déjà des prémices de la foi? Peut-on dire que l'Esprit Saint travaille déjà dans le cœur de ces hommes et de ces femmes? Nous le savons, dans l'évangile de Saint Jean, voir, c'est croire. Dès que vous entendez il a vu, ou nous voulons voir, ou il vit, eh bien vous pouvez être sûr qu'il y a une parole de foi ou un acte de foi qui va être posé. Chez Saint Jean, voir, c'est croire. Il y a donc fort à parier que les Grecs en question se posent des questions fondamentales et qu'ils souhaitent pouvoir y répondre en rencontrant Jésus. Ils présentent leur requête à Philippe qui s'adresse lui-même à André. Alors là encore, si je m'adresse aux plus jeunes, là, si on fait un petit peu d'étymologie des prénoms, et puis si jamais vous avez des gens qui s'appellent André et Philippe, vous pourrez leur dire tout à l'heure à la sortie de la messe. Ce sont des prénoms d'origine grecque. Philippe, alors il y en a peut-être parmi vous qui s'appellent Philippe, c'est l'ami des chevaux, exactement. Et André, c'est l'homme. Anerandros, en grec, c'est l'homme. Eh bien, oui, ces prénoms indiquent une affinité culturelle avec les demandeurs. Saint Jean nous rapporte en outre que Philippe, comme André, est originaire de Bethsaïde. Surtout, notons qu'André est sans doute à l'origine de l'appel de Philippe par Jésus, souvenez-vous, au début de l'Évangile selon Saint Jean. Nous remettons donc la chaîne de la transmission de l'Évangile. Voilà, Philippe va voir André qui va voir Jésus. Alors me direz-vous, où se trouve-t-elle la fameuse rupture logique? Tout semble concorder avec ce que l'Évangile dit depuis la première page. Eh bien, ne trouvez-vous pas étrange la réponse apportée par Jésus à la demande des Grecs? à des croyants qui souhaitent le voir, Jésus répond par un développement théologique très dense, assorti d'une parole inouïe du Père. Avouez qu'on peut faire plus simple en matière de réponse à une demande de rendez-vous. Si jamais les gens qui téléphonaient au presbytère devaient avoir des réponses du type de celle de Jésus, je ne suis pas sûr que j'aurais un agenda très chargé. Ainsi, Jésus ne donne aucune indication directe à transmettre aux Grecs. Il ne dit rien, il dit « amenez-les » ou « donnez-leur rendez-vous tel jour, à tel endroit ». Non. Il nous apprend tout de même trois choses essentielles sur la manifestation de l'amour de Dieu à travers sa personne. C'est-à-dire que Jésus nous donne des renseignements pour croire, puisque les Grecs veulent voir Jésus. Eh bien, Jésus leur donne matière à croire. Il y a trois points. Premièrement, Jésus évoque la venue de l'heure de sa glorification, c'est-à-dire du moment où la pleine réalité de Dieu va être dévoilée. L'éclat de la puissance divine, c'est ça la gloire, va s'exprimer par la mort assumée du Christ en croix. Et ça, c'est aussi une sorte de rupture cognitive, comme on dit dans le langage savant. Voir Jésus en vérité, donc voir Dieu également, c'est voir le crucifié, est-il répondu indirectement aux Grecs. Ainsi, à la rupture logique apparente, se substitue un paradoxe renforcé par l'intervention du Père. Saint Irénée affirmait « la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant », on pourrait dire ici « la gloire de Dieu, c'est l'homme aimant jusqu'à mourir ». Deuxièmement, Jésus indique le sens à donner à sa mort. La parabole du grain qui meurt nous fait comprendre que le mystère pascal, passion, mort, résurrection, que nous nous apprêtons à célébrer dans quelques jours, eh bien, le mystère pascal est la condition d'une fécondité future, à savoir la réconciliation entre les hommes et Dieu. Oui, la nouvelle alliance, l'accès rendu possible pour tous à la vie éternelle. Mais ce mouvement mort-fécondité ne concerne pas seulement le Sauveur, il concerne aussi le disciple de Jésus. Et là, je m'adresse à vous, qui vous préparez au baptême. Avez-vous conscience que, symboliquement, mais plus que ça, spirituellement, eh bien, vous allez suivre le même chemin que Jésus. Vous aussi, vous allez passer par passion, mort, résurrection, pour renaître avec Jésus au jour de votre baptême. Alors ça, c'est un grand mystère qu'il vous faudra eh bien, comprendre tout au long de votre vie. On peut compter sur vos parrains, marraines et sur vos accompagnateurs pour vous aider à toujours avancer dans la compréhension de ce mystère. Pour porter du fruit et que ce fruit demeure, le croyant doit être prêt à renoncer à tout ce que le monde présente comme une vie réussie. La gloire, nous l'obtiendrons nous aussi en mettant nos pas dans ceux du Christ, en nous engageant au service de nos frères, en donnant notre vie par amour. Chacun de nous, à sa mesure et selon le dessein du Père, est appelé à être un grain de blé. Troisièmement, Jésus apporte des vues nouvelles sur les dernières heures de sa vie. Contrairement à ce que nous montrent les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ou ce qu'atteste la lettre aux Hébreux, saint Jean n'évoque pas l'agonie de Jésus à Gethsémani avec un grand cri et dans les larmes. Alors, est-ce qu'il y a contradiction entre les évangiles? Eh bien non, l'âme de Jésus est bien bouleversée, nous l'avons entendu tout à l'heure. Mais à l'angoisse succède presque aussitôt l'obéissance. Cette vertu, car c'en est une, alors c'est vrai que l'obéissance aujourd'hui, elle n'a pas vraiment bonne presse dans notre société, mais bien comprise, et en raison, eh bien, c'est une vertu. Eh bien, cette vertu porte à leur perfection la foi, l'espérance et la charité. Jésus accepte librement de livrer sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et il nous invite, dans sa réponse indirecte aux Grecs, à faire de même. Ainsi, l'heure de la croix devient l'heure où la vie triomphe de la mort. Et ça, on a toujours du mal à l'accepter, à le comprendre et à le vivre. L'heure de la croix devient l'heure où s'accomplit la loi. Dieu inscrit cette dernière non plus sur des tablettes de pierre, mais sur la tablette de chair du cœur de Jésus. Et de ce cœur transpercé jaillit une source de vie éternelle. Nous aussi, nous voudrions voir Jésus. Il nous reste quelques jours pour préparer notre propre cœur et demander au Seigneur d'y mettre sa loi d'amour. Il nous suffit juste de croire à l'inouï du mystère pascal. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.